dans le genre de
Myrion Mal.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône. Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres.
Une émission de Géraldine Saratia.
Myrion Mal, est-ce que vous vous trouvez féminine ?
J'imagine que je corresponds par certains aspects à ce qu'on attend de quelqu'un de féminin. J'ai les cheveux longs, je porte des robes et du maquillage. Je pense aussi que j'ai des choses qui sont très peu féminines, en tout cas de ce qu'on pense que c'est.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le genre. Je reçois ce soir Myrion Mal. Alors Myrion Mal est autrice de BD, elle est française mais vit à Montréal depuis plusieurs années. On l'a repérée il y a quelques années déjà sur un blog qui s'appelait Commando Culotte. Elle le débute en 2011 et y décrypte dans de longs posts dessinés et didactiques la pop culture via le spectre du genre. Alors que penser des personnages féminins dans Game of Thrones, dans Six Feet Under, que se passe-t-il si on fait passer à la série le test Bechdel, ou encore qu'est-ce que le slut-shaming ? Voilà, toutes ces questions y étaient détaillées, c'était drôle, informé. Mais pop, Commando Culotte devient logiquement une BD en 2016. Depuis, Myrion Mal a illustré Les Règles, Quelle Aventure, des listiers beaux, et ensuite, en 2019, La Ligue des Super Féministes, un bouquin destiné aux ados et pré-ados. Elle revient aujourd'hui avec une fiction BD, C'est comme ça que je disparais, qui raconte, au plus près de son héroïne, l'histoire d'une dépression. On écoute Myrion Mal nous en lire un extrait.
La première fois où j'ai eu le goût de mourir, j'avais genre 12 ans. Mais ça compte pas celle-là. Pourquoi ça ne compte pas ? Ben, ça compte pas parce que c'était ponctuel. Je veux dire, ça ne m'a pas traumatisée. Enfin, ça m'a marqué, c'est sûr, ça m'a marqué. J'imagine que le reste de ma scolarité, ça... Je dis le reste de ma scolarité parce que c'était à l'école. C'était un truc de harcèlement, de filles de ma classe qui avaient perdu leur bouc émissaire. Puis j'étais là, j'étais plus jeune, forcément j'ai pris le rôle. Mais ça a duré quoi ? 2 mois, 3 mois ? C'est vite passé, j'ai fait du théâtre, je suis devenue plus populaire et extravertie, bref, vous voyez. En tout cas, voilà, je dis que ça ne compte pas parce que ça n'a rien à voir avec comment c'était après. Oui, et donc, vous voyez, depuis, eh bien, je ne sais pas, j'ai eu souvent le goût de mourir. Je dis le goût parce que c'est jamais allé jusqu'à avoir de vraies pensées suicidaires. Genre, j'ai jamais été au bord du gouffre. Genre, je le vois au loin. Puis ce qui m'effraie, c'est que ces derniers temps, je dois vraiment me concentrer pour ne pas le regarder trop longtemps. Puis me dire que peut-être ça serait pas si grave d'avancer, un peu.
Voilà, c'était un extrait de « C'est comme ça que je disparais », donc l'histoire d'une dépression suite à une rupture qui fait ressurgir en écho d'autres traumatismes. Clara, une jeune poétesse qui vit à Montréal et travaille dans l'édition, fait l'expérience d'un vide qui petit à petit prend toute la place dans sa vie. Alors par petites touches, le livre fait faire au lecteur cette expérience d'un réel qui se dérobe, de relations qu'on n'arrive plus à maintenir, de cette sensation de n'avoir plus aucun recours. Mais c'est aussi un livre traversé par les thématiques chères à Myrion Mal, l'amitié, la sororité, les inégalités de genre. L'écoute, c'est aussi un portrait de la jeunesse montréalaise connectée du début du 21e siècle. Voilà, on va parler de tout ça ce soir. C'est parti pour une heure dans le genre de Myrion Mal.
Nova. Dans le genre. L'enfance.
J'ai grandi dans une famille en Charente-Maritime. Donc j'ai mes deux parents et mon frère et ma sœur. Je suis la plus grande. Mes parents sont des scientifiques, ma mère est prof et puis mon père travaille, il est chef d'exploitation en expérimentation aquacole, très intéressant. Et puis j'ai grandi dans une famille donc, où on m'a dit assez tôt que, quand j'étais, que parce que j'étais une fille, il fallait que je sois jamais dépendante de quelqu'un, il fallait que je sois très bonne à l'école, il fallait que je sache m'occuper de moi-même, etc. Et ça ne veut pas dire que... je pense que c'est une famille... Je pense que par mes parents, j'ai vraiment eu l'idée assez tôt de, que c'était, qu'il y avait des injustices, disons. Après, ça ne veut pas dire que ça, la famille était dégenrée du tout. Hein,
mais... Il y avait des, vous diriez quoi, justement, des normes de genre dans cette famille ? Votre père, par exemple, vous diriez quoi de lui ?
J'aime beaucoup mon père. J'ai la chance d'avoir une relation qui est bonne. C'est ça que je veux dire par là. Après, bon, il serait, je sais pas s'il va écouter. Alors c'est stressant. Mais oui, il y a la répartition du travail domestique, du travail émotionnel, c'est sûr que ça ressemble beaucoup aux autres couples hétérosexuels. C'était ma maman qui s'occupait plus de ça. Après, j'ai quand même... je me trouve chanceuse maintenant parce que j'ai une bonne relation avec mon père et une bonne relation avec mes parents, en fait. Mais c'est ça, je suis peut-être plus critique aujourd'hui et des fois les discussions sont un peu enflammées à cause de ça parce que je pense que c'est jamais bien de se faire reprocher des choses. Et étrangement, c'est ça, c'est aussi mon père qui m'a dit, je me rappelle très très bien, à 6-7 ans, qui me dit que c'est très important pour une fille de ne pas être dépendante de son mari, c'est très important... De faire des grandes études pour avoir un travail, pour pouvoir m'occuper de moi-même, qu'il fallait que je donne deux fois plus, voilà. Mais c'était quand même plutôt moi et ma sœur qui devions mettre la table.
Et lui, juste par rapport aux normes du masculin, il est comment, votre père? Vous diriez que c'est un homme très masculin, viril, pas... enfin, vous le qualifieriez comment?
Oui, je pense que il est très grand, il est très sportif, c'est un scientifique. Après, ma maman aussi est une scientifique, donc pour moi, c'était pas très genré à l'époque, mais oui, je pense qu'il correspond assez bien à ce qu'on attend, d'un homme viril sans être celui qui casse des gueules et tout ça. C'est plutôt un intello. Je sais qu'il a pas fait son service militaire car il était trop myope. C'est ça, avec des grosses lunettes, mais. On n'est pas obligé de remplir toutes les cases pour être considéré comme un homme en vrai, contrairement aux femmes où on doit remplir toutes les cases, même celles qui s'opposent.
Et votre mère, vous diriez quoi d'elle?
J'aime beaucoup ma maman aussi et on a une bonne relation. Je dirais aussi que elle était à la fois très douce, à la fois pour nous très présente et elle faisait, j'imagine, elle avait une figure maternelle très, très classique, dans le sens qu'elle était vraiment là pour nous. Et de l'autre côté aussi, ma maman, elle a un doctorat. Mes parents sont vraiment... c'est des gens qui ont monté une classe sociale, voilà, qui ont accédé à la classe moyenne, ouais, parce qu'ils ont fait des hautes études. Et donc, il y a vraiment cette idée que maintenant, on peut dépasser de méritocratie, voilà, de si on travaille bien. Et ma mère, notamment, est l'exemple. Elle a un doctorat en biologie sous-marine. Il y a l'idée que l'intelligence, qu'elle est très intelligente, qu'elle est très, très, très scolaire aussi. Voilà, et elle était chercheuse avant que je naisse, et puis après, elle est devenue prof.
Et du coup, donc il y a cette figure comme ça, et puis cette sphère de l'intellect qui est investie fortement, on le sent, chez vos deux parents. Et votre mère, par rapport au féminin, elle se situait comment, du coup? Elle adoptait les signes ou pas trop?
Je pense quand même que oui, là, c'est pas. Je pense que comme beaucoup de femmes dans un milieu d'hommes, elle est pas hyper comme dans le sens que c'est pas beaucoup de maquillage, beaucoup voilà. Mm-hmm. Peut-être qu'on peut attendre de ce qui est très féminin. Après, oui, elle se maquillait quand même. Elle avait des petits talons. Elle avait voilà. Mais je pense que c'est assez classique, en tout cas dans leur apparence, tous les deux, dans ce qu'on attend des normes de genre. C'est sûr que c'était pas quelque chose et c'est toujours pas quelque chose qui les bouleverse. Leur apparence bouleverse pas les normes de genre ou ces choses-là. Après, dans son caractère, c'est ça, genre avec nous, elle était très maternelle et en même temps. Je sais que dans son travail, elle a dû. Et aujourd'hui, on en parle souvent parce que c'est ça, maintenant, elle a un poste avec un peu plus de responsabilité. Et puis, c'est un milieu vraiment très masculin où elle évolue et on parle beaucoup du fait que. On parle vraiment du fait que c'est ça, elle a des obstacles dans ses collègues, dans les idées qui sont propagées dans le milieu sur les femmes. Et c'est intéressant parce qu'après moi, mini détour, mais comme dans mes études, j'ai travaillé sur les milieux les dynamiques de pouvoir dans certains milieux de travail. Et puis je vois ça aussi que c'est ça, j'ai vu que les femmes dans les milieux très masculins, il faut soit adopter la douceur et le fait d'être gentille et le fait de. Mais pour pouvoir arriver à ses fins, ou au contraire d'être plus virile que les hommes. Et donc je dirais peut-être que c'est la première solution de.
Qu'elle a adopté. Alors on écoute un peu de musique, une première chanson que vous avez choisie pour nous. Je vous ai demandé une petite playlist et une chanson qui sera portée un peu au monde de votre enfance. Et vous avez choisi la chanson de l'extraterrestre de Émilie Jolie. Alors on écoute ça.
Comment tu t'appelles?
À 440.
Est-ce que tu me trouves belle?
Ah, vraiment charmant.
Dis, où c'est chez toi?
Sur la planète Fa.
C'est très loin d'ici.
Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici. À 1 million d'années-lumière de ta petite terre.
Qu'est-ce que vous y faites?
Nous, on fait fait la fête.
Oh, c'est fantastique.
Et toujours en musique.
Dis où c'est chez toi.
Sur la planète Phare.
C'est très loin d'ici.
Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici. À 1 million d'années-lumière de ta petite terre. Je suis un fils du solfège. Je monte la gamme et je redescends. Dans mes poches il y a des bémols, des dièses, des temps et des contretemps. Et je suis marié à une portée. Noir sur blanc, quelle est jolie. Son prénom c'est Symphonie.
Comment tu t'appelles?
À 440.
Est-ce que tu me trouves belle?
Ah, vraiment charmant.
Emmène-moi chez toi.
Sur la planète Phare.
Oui, c'est ça.
Je t'emmènerai un jour si tu veux. Mais pour l'instant, profite de ce que tu as sous les yeux. Je suis un fils du solfège. Je monte la gamme et je redescends. Dans mes poches, il y a des bémols, des dièses, des temps et des contre-temps. Adieu.
Voilà, c'était la chanson de l'extraterrestre, un titre de Philippe Châtel, Émilie Joly. Pourquoi vous avez choisi ce titre, Myriam?
Parce que dans mon enfance, en fait, je pense que j'écoutais un peu la même musique que mes parents aussi, mais les trucs pour enfants que j'écoutais, c'était Anne Sylvestre, Les Fabulettes, il y avait Henri Dess, pardon, bien sûr, et puis il y avait Émilie Joly que j'ai vraiment... J'ai saigné cet album quand j'étais enfant. Je veux dire, et même aujourd'hui, en fait, et les illustrations encore aujourd'hui, bon, me bouleversent. Et puis, même le. Bref, je suis toujours très attachée et je trouve aussi que c'est toujours extrêmement poétique et beau. Et en plus, donc, c'est ça, il y a toute une ribambelle de grands noms de la chanson française et québécoise qui participent à l'album. Et cette chanson était ma chanson préférée de l'album. Et je trouvais ça un peu drôle parce que dedans, c'est quand même un peu. C'est un peu genré, quoi. Un peu. Voilà, sa femme l'attend dans sa planète. Et puis, Émilie, elle est très belle. Et pourtant, c'est drôle parce qu'Émilie, c'est quand même une figure vraiment cool, même si elle est souvent ramenée au fait qu'elle est une petite fille. Mais, et je sais pas, même aujourd'hui, ça me fait. À chaque fois que je l'écoute, on dirait que ça m'apaise l'album en entier. Et j'ai une tendresse particulière pour cette chanson.
Et alors vous, justement, vous étiez, on parlait un peu de vos parents, scientifiques, vous étiez quel type de petite fille, vous?
Alors moi, par contre, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué, qui est un terme problématique. Mais moi, j'étais vraiment, c'est ça qui est drôle, parce qu'aujourd'hui, bon, je suis plus féminine, dis-je avec des guillemets, avec mes mains. Mais j'étais, sur les photos de classe, c'est moi qui suis tout le temps mal peignée, avec une dent en moins, mais toute débraillée. Mes parents étaient tout le temps... Le matin, je prenais ma douche, et puis 5 minutes plus tard, c'était bon, j'étais déjà toute décoiffée. J'avais beaucoup de cheveux qui partaient dans tous les sens, et je jouais, je courais partout, et j'aimais me battre. Je me rappelle qu'en CP, je me suis battue avec un CM2. Parce qu'il m'avait craché dessus. Et j'étais hyper... C'est ça, j'étais vraiment... Je rejetais... Je pense qu'en fait, d'un côté, je rejetais ces choses-là. C'est un peu... Maintenant, c'est vrai que je pourrais pas dire avec certitude, voilà, c'est parce que j'aimais pas ce rôle-là, mais je pense que moi, j'étais quelqu'un... Je pense que j'étais une enfant qui juste simplement faisait pas trop attention à son physique, faisait pas trop... Mais je jouais quand même avec des Barbies. J'ai vraiment eu, au niveau des jouets, voilà, les deux. Je pourrais pas dire que c'est...
Donc, c'est pas un rejet total non plus.
Non, c'est ça, j'étais... Mais en tout cas, moi, et je pense que c'est quelque chose que je suis encore aujourd'hui. Dans qui j'étais, je faisais pas trop gaffe à ça à ce moment-là, et y avait plein de choses peut-être qui sortaient de ce qu'on attendait de la petite fille sage, et en même temps, c'était pas du tout problématique pour mes parents, quoi.
Et vous, ça vous posait des difficultés ou pas, par rapport au regard qui était porté sur vous à l'école?
Je pense que quand j'étais petite, pas vraiment, parce que on me traitait de garçon manqué. Mais après, je traînais quand même surtout avec des filles. J'avais surtout des copines, et puis avec elles, il n'y avait pas de problème. Je pense que c'est devenu un peu quelque chose dont on se moquait quand. En fait, j'ai sauté une classe, c'est pas très intéressant là, mais j'ai sauté une classe et d'un seul coup, je me suis retrouvée avec des gens où j'avais comme un peu peur. Et j'étais un peu une intello. Et à ce moment-là, le fait que j'étais moche est devenu une insulte. Et parce que j'avais les cheveux très longs et d'un coup, je les avais coupés très courts. Et puis, j'avais des lunettes.
Mais ça avait à voir avec une apparence physique, pas forcément avec le fait d'adopter ou pas des codes.
Parce qu'en fait, c'est ça, je m'habillais aussi mal. Ma mère m'habillait, puis je m'avais pas fait changer de look ou quoi, et elle me mettait ce avec quoi j'étais heureuse. Et je pense que c'est ça, il y a eu vraiment le truc que j'ai... En fait, je pense que qu'est-ce qui m'a... Il y a deux choses qui m'ont conduit à me trouver moche. On m'a dit que j'étais trop grosse et on m'a dit que j'étais un garçon manqué. Et après, je pense que plus tard dans mon adolescence, j'ai voulu rattraper et surjouer peut-être des codes féminins parce que j'avais l'impression que c'était ça qui... Mais ouais, je pense qu'au début, quand j'étais enfant, ça ne me posait pas problème du tout. Je pense que c'était juste sur les photos de classe, les parents qui étaient dépités parce que j'avais vraiment... Oui, j'étais très, très décoiffée.
Et à l'adolescence, après, alors du coup, vous avez essayé de rattraper, entre gros guillemets, le truc en adoptant des codes féminins très affirmés?
Et ben, quand je dis adolescence, c'est quand même un peu tard parce que moi, j'étais intéressée par un peu personne, à part Bill de Tokyo Hotel en troisième. Je n'étais pas vraiment dans la volonté de m'afficher comme féminine ou pas d'ailleurs. Je pense que j'avais d'autres centres d'intérêt.
C'était quoi vos centres d'intérêt?
J'aimais beaucoup lire. J'étais vraiment une intello boring. Genre, j'aimais lire. J'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais en quatrième. J'aimais être avec mes amis, j'aimais MSN et la musique et les mangas. Et genre, c'était assez classique d'une adolescente, je pense, mais j'étais pas du tout... Mes copines sortaient avec des garçons et moi,
ça
non.
Ça vous intéressait pas?
Ça m'intéressait vraiment pas. Des fois, je pense qu'il y avait des filles qui me fascinaient vraiment, mais c'était même pas non plus vraiment des crushs, je sais pas. J'étais juste... je pense que c'était au-dessus de moi. Et d'ailleurs, je pense que quand je trouvais quelqu'un qui était beau, je me sentais pas digne de ça. Ouais. Et c'est ensuite, quand je suis passée au lycée, que vraiment, j'avais un peu expérimenté avec le maquillage, déjà en troisième, bon voilà. Et c'est ça, et en fait, je me suis fait traiter de gros ton tout mon collège, et je pense que d'un seul coup, j'avais envie de surjouer ça, mais aussi de façon très maladroite. Et j'étais pas non plus extrêmement sexy ou quoi du tout, mais voilà, je mettais beaucoup de maquillage, j'étais plus genre emo après, donc c'était aussi ces codes-là. Je faisais attention à mes cheveux d'un seul coup, mes vêtements ont commencé à compter. Bon, ça, je pense que c'est un peu tout le monde à un moment, mais. Et je pense que peut-être à ce moment-là, c'est ça, par exemple, quand j'avais 15 ans, j'étais 14-15 ans, voilà, mes cheveux, je les lissais 4 fois par jour, j'étais obsédée par ça, j'avais toujours du fond de teint dans mon sac avec du colle pour mes yeux, que je faisais tout, enfin, et c'est drôle, j'étais minus, quoi, comme, c'est pas... Et à ce moment-là, c'est devenu beaucoup plus important. Après, pour moi, c'est vrai que mon apparence physique et peut-être ma féminité est... Parce que j'étais toujours, comme j'ai toujours aimé la bagarre, les trucs comme ça,
Mais ça n'avait pas cessé.
Non, pas vraiment. Genre, je pense que j'avais ces centres d'intérêt là aussi. Je pense que je me trouvais cool. J'étais drôle aussi, et drôle, c'est pas un truc de fille. Donc j'étais pas comme. Il y avait ces trucs là, mais aussi c'était beaucoup lié au fait que je me trouvais laide et voilà mon rapport au corps, que le fait qu'on m'avait insulté sur ça, que j'ai ouais. Ou plutôt au fait que assez tôt, quand on est une fille, je pense qu'on nous dit tu n'es pas belle ou tu es belle. Et puis aussi moi, je faisais le crime. Ultime pour une collégienne qui était d'être grosse. Et alors, c'était très triste parce que quand je me faisais dire ça et puis je me regarde maintenant et j'étais déjà obsédée avec l'idée de maigrir très très tôt alors que j'étais une ado en santé, quoi. J'étais peut-être pas la plus mince, mais c'est ça, c'était vraiment le fait, voilà, l'idée que j'étais grosse qui m'a peut-être plus aussi obsédée avec mon physique et contrôler les autres choses que je pouvais contrôler.
Et justement, à cette époque, vous parliez tout à l'heure de Bill de Tokyo Hotel. J'allais vous demander s'il y avait des figures un peu d'identification. Enfin, dans cette période qu'on sent un peu floue, c'était assez compliqué, je pense. Est-ce qu'il y avait des figures de féminité, par exemple, dans la pop musique ou dans le cinéma? Je ne sais pas ce qui vous intéressait à l'époque. De féminité ou de masculinité, d'ailleurs. Mais vous vous souvenez de figures comme ça qui vous ont aidé?
Alors, c'est drôle parce que très tôt, moi, je me suis identifiée aux filles. Genre, les filles, par exemple, quand j'étais petite, c'était Pokémon, donc il y avait juste Ondine, donc bon. Mais aussi, Ondine, elle était cool, elle était drôle, un peu bagarreuse, ça m'allait bien. Après, c'était Digimon. Là, il y avait aussi un autre personnage, la petite fille. C'était toujours c'était les petites filles, donc là, qui n'étaient pas non plus sexualisées ou quoi. Et puis, après... Ce qui est un peu drôle, c'est qu'au début d'adolescence, genre fin primaire, début collège, j'étais absolument... Enfin, même au collège, mais mon idole, c'était Aïssa Milano dans Charmed. Donc Phoebe, qui était hyper féminine. J'avais un poster d'elle, je me rappelle, en sous-vêtements. Et la marraine de ma sœur avait dit, tu sais, c'est retouché pour avoir des seins comme ça. Alors que j'avais genre 11 ans. Par contre... Celle qui me donnait ma force, c'était Avril Lavigne. Ça, et moi j'aimais ça, justement qu'elle était garçon manqué et tout. Et moi je me rappelle, quand j'étais petite l'été, mon père c'est un randonneur et on passait une semaine à la montagne à faire la marche et j'aimais pas ça. Et je pensais à Avril Lavigne. Elle le ferait. Et je connaissais ses chansons en simili anglais, hein, parce que j'étais quand même un peu petite. Puis ça, en plus, elle avait 16 ans. Donc, et j'avais un classeur Avril Lavigne. J'avais eu un classeur Alyssa Milano. Mais, ouais, c'est ça. J'étais, Avril Lavigne, ça a été vraiment une obsession. Une obsession. C'était vraiment mon modèle, quoi. Sans que ce soit. Et après, par contre, quand il y a eu Tokyo Hotel, ça, c'était plus un truc. Je pense qu'il y avait un truc d'identification avec l'adolescence, avec le fait que c'était un peu plus dark, que moi, voilà, je penchais dans ces choses-là. Sinon, il y avait Hermione aussi, que j'aimais beaucoup dans Harry Potter.
Dans le genre de...
Myrion Mal.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre
de femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Musclé. Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Cyril.
Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours en compagnie et dans le genre de l'auteur de BD Myrion Mal. Elle a signé plusieurs ouvrages, donc Commando Culotte, et sort aujourd'hui sa première fiction BD, C'est comme ça que je disparais, aux éditions La Ville Brûle. Alors c'est l'histoire d'une dépression, une jeune femme poétesse dans le Montréal contemporain, mais aussi une histoire de sororité, d'amitié, de relations contemporaines. Alors on va parler de son parcours aussi, mais avant ça on va écouter un peu de musique, Shy Liquide. On se retrouve juste après.
Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, liquide, je le liquide, liquide. Je ne veux pas du minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. Je ne peux pas poursuivre un homme. Ne me parle pas de love, je suis pas comme les autres. Je ne veux pas le minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. Et pour le pire, et je réponds pas, t'es dans la tourmente. Je te skip en quelques secondes si t'es trop collant. Je les gifle en rentrant, bordel, je suis insolente. Si j'y gagne rien, je peux pas vraiment savourer le moment. Je mets des chouchous autour de mes billets pour en faire des liasses. Je te laisse aboyer, je fais des donuts dans la classe. Sache te repérer, monsieur, t'es perdu au fond de la boîte. Si jamais un jour je te cours après, c'est pour t'abattre. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, liquide, je le liquide. Je ne veux pas du minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. Je ne peux pas poursuivre un homme. Ne me parle pas de love, je suis pas comme les autres. Je ne veux pas le minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50.
Je ne veux pas poursuivre une cochonnette. Elle est vraiment têtue. Je ne veux pas qu'on se prenne la tête. Je lui fais virement tout de suite. Des fois quand je suis posé calmement, je fume ma fusée. Elle me fait cette crise, elle veut que j'aille jusqu'à Bruxelles. Comment peut-elle oser, ça c'est l'excès. Deux, trois lui bidons, elle m'a pris pour une pucelle. Elle est folle, elle veut prendre mon téléphone. Elle veut prendre mon bénéfice, girl, veut vider mes poches. Elle est folle, elle veut prendre mon téléphone. Elle veut prendre mon bénéfice, girl, veut vider mes poches.
Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, liquide, je le liquide, liquide. Je ne veux pas du minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je ne parle pas de love, je suis pas comme les autres. Je ne veux pas le minimum. Pas de 50-50, pas de 50-50.
Voilà, c'était Shy, un choix de notre invité de ce soir, Myrion Mal. Alors Myrion, pourquoi Shy ?
Parce que je l'adore et en fait en écoutant cette chanson pour la première fois, donc c'est son dernier album Antidote, et quand je l'ai écoutée pour la première fois, je me suis dit oh, j'aurais trop aimé avoir ça quand j'étais ado, parce que elle est tellement cool, elle est tellement genre dans le...
Sa féminité, elle vous plaît ? Vous la décririez comment ?
Oui, bah, je trouve que c'est comme. Elle est trop belle. Là. Chaque fois que je la montre à quelqu'un, tout le monde est comme ah, ok, c'est juste la plus belle femme du monde, très bien. mais je la trouve super cool aussi parce qu'elle est très féministe et elle évite plein d'écueils en interview. Je sais pas, je suis hyper admirative et j'adore sa musique et je trouve qu'il y a un truc. C'est ça, c'est très efficace et c'est très. J'ai peur d'utiliser, de dire des trucs un peu poche pour parler de ça, mais c'est ça, j'aimerais ça moi aussi dire si un jour je poursuis un homme, c'est pour l'abattre. Comme, c'est vraiment trop. Enfin, et okay. j'aurais. aimé aussi grandir avec ce genre de message-là et ce genre de liberté-là, j'imagine, de voilà.
Alors, vous a laissé à l'adolescence, donc vous avez fait une prépa de lettres, des études théâtrales, et puis après, vous avez fait cette école de BD à Bruxelles, le SA, c'est ça?
Oui, exactement.
Juste rapidement, comment en plus, après, vous avez fait plus tard des études de sociologie avec une spécialité sur le genre, je sais que c'est des questions qui vous intéressent beaucoup. Le monde de la BD que vous avez découvert, mais comme ça, à l'école, dans l'enseignement, est-ce que c'était un monde genré? Est-ce que déjà, il y avait une... Est-ce que les filles faisaient plus de l'illustration? Est-ce qu'il y avait des rôles de genre?
Alors, j'ai vraiment aimé mon école, les A-Saint-Luc, et justement, je pense que c'est, même si, effectivement, il y avait plus de filles dans la section illustration, et pour la première fois depuis longtemps, car j'avais fait d'études littéraires, il y avait autant de filles que de gars en BD. Mais je pense que mes profs ont jamais... je voyais, ils avaient beaucoup d'espoir sur plusieurs filles de nos classes. Enfin, il n'y avait vraiment pas... J'ai pas senti de différence de traitement à ce niveau-là. Par contre, le milieu de la BD, je l'ai aussi découvert dans les festivals en même temps.
Oui, vous revenez d'Angoulême, là, alors où on enregistre, quelques jours après.
Et ça n'a pas vraiment changé, même si... mais je veux dire, moi, j'avais 19 ans quand je suis arrivée dans le milieu de la BD, donc juste... je pense que c'était juste avant de rentrer à Saint-Luc, l'année d'avant. Et en fait, c'était... je pense qu'à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte parce que je voulais tellement... C'était tellement mon rêve d'en faire partie. On était tout un petit groupe de jeunes qui avaient... On avait des blogs BD. Et voilà, de jeunes entre 17 et 20 ans. Et il y avait les vieux. Hein, c'était des... Beaucoup des... Il y avait des gens, mais beaucoup des... Là, je parle de gars de plus de 25 ans même. Et on était des petits agneaux, quoi. C'était vraiment des mains au cul, des mains sur... On se faisait toucher les seins, on se faisait flatter les cheveux. Et il y avait quelque chose vraiment je pense qu'à ce moment-là, il fallait en rire parce que c'était quand même il y a quelques années. Il fallait en rire, il fallait pas trop le montrer. Et aussi, c'était comme un signe d'intérêt. Waouh, on est repéré, on est vu. Mais en vrai, maintenant, quand j'y repense, je trouve ça horrible d'avoir accepté ça. Et surtout, je vois que les choses n'ont pas vraiment changé.
Même si, par exemple, Angoulême a pris des mesures. Enfin, il y avait eu en 2016 aviez... Il y avait plusieurs personnes qui avaient signalé que ça avait fait un petit scandale, parce qu'il n'y avait aucune femme en sélection. Bon, aujourd'hui, ça a changé. Enfin, ils ont quand même instauré une parité. Enfin, il y a eu des mesures qui ont été prises.
Il y a des choses qui ont changé. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé dans le fait que les femmes, entre nous, on s'est... les femmes, il y a aussi des... Dans le collectif, les personnes non-binaires sont aussi acceptées, mais on s'est vraiment... Ouais. Alliés entre nous pour s'écouter et pour parler. Et je pense que ça a changé des choses. Et aussi, voilà, je pense que maintenant, on est plus sur le qui-vive par rapport à ça et on est peut-être plus réactive. Là où je dis que ça n'a pas changé, c'est qu'on sait toujours... Dès que j'ai eu 19 ans, il y avait des noms qui circulaient. Évite telle personne, évite tel éditeur, évite tel auteur.
Ah oui.
Oui, genre entre nous, parce qu'il va te mettre la main aux fesses, parce qu'il est lourd, parce qu'il drague lourdement, etc. Il va te coller à la soirée. Et les noms circulaient, donc on savait un peu qui éviter, même si c'était encore sur le truc de « ha 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 ». Il est vraiment lourd. Maintenant, c'est plus cette personne, c'est un harceleur. Cette personne, c'est un agresseur. On se passe des noms, mais on peut pas les dire parce que c'est ça qui est terrible, c'est que le système est fait pour qu'on puisse pas donner les noms. Mais on sait très bien. Et moi, ce qui me tue, c'est que très souvent au festival, il y a des moments où je me prends la tête avec certains de ces gars-là ou avec des gens autour où je dis oh, ça m'énerve ce gars-là, il a encore tripoté telle personne. Et les gens le savent. Oui, bien sûr. On le sait que machin, il a fait ça. Mais bon. Et parce que peut-être c'est en festival, et donc les festivals, je pense que les agressions, c'est surtout des agressions dans l'espace public, parce que c'est pas forcément un espace pour le privé, mais ça empêche que c'est quand même du harcèlement et des agressions. Il y a une idée que c'est pas très grave. Et moi, c'est quelque chose que je trouve très très dur, parce que les choses changent et en même temps elles ne changent pas, et en même temps chaque année les mêmes sont là et ils ont toujours des postes de pouvoir et ils ont toujours un accès aux très jeunes femmes, parce que c'est ça aussi la BD, il y a souvent des très jeunes femmes qui arrivent et c'est terrible et c'est hyper difficile, et c'est ça qui est hyper difficile. Et pourtant il y a tellement de femmes dans la BD aussi, il y a tellement, c'est un milieu très riche, très divers, et heureusement il y a une sororité qui s'est vraiment instaurée, je pense, maintenant, et qui est très forte et qui a réussi à faire changer des choses au niveau institutionnel, ce qui est déjà très cool, que le Grand Prix ça ait changé, etc. Voilà, mais c'est toujours difficile, je trouve. C'est toujours, j'ai hâte qu'il y ait peut-être des articles quoi sur ce milieu-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Parce qu'il y a moins d'argent dans la BD, donc je pense que c'est peut-être, il y a une idée qu'il y a moins de pouvoir, et donc on en parle moins, ça vaut moins le coup, c'est des gens moins connus. Il y a des agresseurs dans le milieu, tout le monde sait qui c'est, mais personne ne sait dans la vie de tous les jours, parce que voilà, c'est un milieu qui n'est pas aussi populaire peut-être que d'autres, et qui est, ouais. Je pense que l'argent est très lié aux questions de pouvoir, là, bien sûr, et donc voilà. Forcément. Mais j'ai hâte que des noms sortent enfin, parce que là, on est obligé de faire, on est obligé de gérer ça entre nous. Et puis, il y a toujours, toujours des soucis et des choses qui nous échappent, quoi.
Alors, vous, la première fois qu'on vous a remarqué, enfin, moi, c'était sur votre blog, c'était Commando Culotte. Vous l'avez créé en 2011. Vous étiez encore étudiante. Vous avez commencé à faire des posts un petit peu sur des notes dessinées sur des films, des séries, des objets de la pop culture, en fait. C'était quoi l'ambition de départ, en fait?
Alors moi, donc à la toute base, en 2011, je l'avais créé, j'étais en prépa lettres. C'était raconter vraiment... À l'époque, le blog BD, c'était on raconte sa vie en quelques vignettes. Donc c'était ça. Moi, je m'étais décidée, la BD, c'est ce que je veux faire à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis après, pareil, quand j'étais en études théâtrales l'année d'après, mais là, d'un seul coup, j'étais plus dans le milieu de la BD. C'est ça, j'ai commencé à rencontrer des gens en festival, j'étais à Paris, bon. Et après, je rentre à Saint-Luc, et là, je poste mes travaux d'école, bien sûr, sur le blog. Mais à un moment, je me dis, au bout d'un an, je suis comme, ah, c'est dommage, j'ai plus de projets personnels. J'essaye d'écrire des histoires, j'essaye d'écrire des projets longs. Mais... Et donc là, je me mets à faire des notes sur les sujets dont je parle dans la vie de tous les jours, qui sont... des débats féministes, surtout sur des films et des séries. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que j'en avais marre de répéter 3000 fois les mêmes arguments aux mêmes personnes. Et je me suis dit, au moins là, c'est sur mon blog, je peux leur dire, va le lire. Et puis, j'étais très militante déjà depuis longtemps. J'étais pas forcément très bien informée, mais j'avais commencé à lire et tout ça. Et petit à petit, c'est devenu la vulgarisation. Et c'est ça, le fait de faire une boîte à outils, comme je dis souvent, ouais. C'est devenu très intéressant pour moi. Et donc, j'ai continué parce que j'aimais ça, quoi. Et je trouvais qu'il y avait des choses à dire et que la BD, c'était une façon pratique de les dire.
Oui, et en fait, donc, du coup, ça a pris pas mal d'ampleur. Enfin, vous avez été assez repérés. Puis, c'est un ensemble de petites histoires, enfin, de notes, d'analyses. Vous prenez une série, un objet, là, pour les auditeurs comprennent. Par exemple, vous prenez Six Feet Under ou Game of Thrones. Et en fait, vous examinez un petit peu les stéréotypes de genre à l'intérieur, quid de la culture du viol à l'intérieur. Voilà. Et en fait, il y a les bons points, les mauvais points. Puis, alors, c'est à la fois drôle, très informé. Et vous faites, donc, moi, j'ai appris ça parce que je suis pas spécialiste de BD, de la BD didactique, c'est ça? C'est un genre de la BD, ça, la BD didactique?
Oui, je sais pas si c'est un terme officiel, mais oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui, c'est ça, de la BD qui explique qu'il y a plein d'autres sujets, et puis ça se prête bien aux questions de justice sociale et de sociologie, je pense, et voilà, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai vraiment... Après, quand je suis allée à l'université, que j'ai fait de la socio et des études féministes, c'était aussi bien parce que j'avais envie de vulgariser, des concepts peut-être un peu élitistes.
Oui, parce que vous avez aussi beaucoup travaillé ensuite, par la suite, pour de la BD plus jeunesse, en fait,
oui,
où vous vulgarisez aussi comme ça plein d'idées sur le sexisme, le consentement, sur... c'est la Ligue des Superféministes,
oui,
c'est ça, le
exactement.
Livre que vous avez fait, c'est pour des enfants d'une dizaine d'années, à peu près. Ça vous importe justement d'essayer de faire passer ces concepts-là
Ben, en fait, c'est mon éditrice qui m'a proposé de faire ce livre, et moi, j'ai trouvé que c'était un défi vraiment intéressant parce que justement, à l'université, j'ai vraiment eu l'impression que ça m'a tellement aidée, ça m'a tellement construit politiquement et tout ça, et avoir tous ces textes et avoir accès à tout ça. Mais même moi, avec un bac plus 5, il y avait des textes que je devais vraiment éplucher pour comprendre, des phrases que... Et en fait, des fois, c'est rageant de voir qu'une phrase de 5 lignes, c'est pour être résumée en 3 mots. Et je trouve ça dommage dans ces questions-là de justice sociale parce qu'en fait, ça concerne tout le monde et que tout le monde n'a pas accès à faire un bac plus 5 en plus. Et je me suis dit, en fait, je pense que c'est assez simple pour être expliqué à des enfants. Et effectivement, si jamais on décortique ça bien, et le challenge, ça a vraiment été de décrire pour les enfants parce que moi, je ne l'avais jamais fait. Et donc, il faut être très claire, très concise, aller droit au but. Et au final, je pense qu'on peut leur expliquer des concepts compliqués parce que je pense que aussi quelque chose, c'est quand on parle aux enfants ou même en général, en fait, quand on fait de la vulgarisation, on va se dire on va aller au plus basique, alors qu'en fait c'est pas obligé, on peut parler de choses complexes. Et je trouve que c'est important de pas rentrer par une porte et ensuite se rendre compte qu'il y avait plein de choses qui étaient mal expliquées ou qui étaient fausses, qu'on pensait. Par exemple, moi, le slut-shaming, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était pas bien, quoi, et que c'était sexiste. Et j'aurais bien aimé que dès que j'étais ado et que j'ai commencé à me dire féministe, pouvoir me dire, peut-être que ça serait bien que j'insulte pas telle fille parce qu'elle met une jupe très courte, quoi.
Allez, on écoute Kate Nash, un autre de vos choix. On se retrouve juste après.
There was this cool girl. She was about your age. She kind of had your smile. She kind of had your face. There was this cool girl. She was about your age. She kind of had your smile. She kind of had your face.
Voilà, c'était Kate Nash, Sister. C'est une artiste que vous aimez beaucoup ?
Oui, oui, je la suis depuis que j'ai 17 ans et qu'elle avait fait son premier album avec MySpace et tout. Et ouais. J'aime beaucoup car elle a évolué vraiment vers un truc, un féminisme très, très, très inspirant. Et elle fait des trucs avec que des... Enfin, elle a créé des girl gangs et tout ça. Et c'est super cool. Et cette chanson, je l'adore en plus parce que c'est à la fois une histoire de sororité, une histoire d'amitié, enfin d'amitié comme... c'est ça, ouais, mais aussi ouais. L'intérêt amoureux, c'est une fille, et genre je trouve que c'était hyper cool quand j'ai écouté cette chanson pour la première fois, ça m'avait hyper émue
oui, parce qu'elle écrit à une fille en lui disant ça, voilà, bon bah à l'époque tu t'as un peu essayé de sortir avec moi, mais moi mon cœur était déjà pris par quelqu'un d'autre, c'est et ça. En fait bon, finalement elle lui réécrit un peu, enfin bon voilà, c'est entre l'amitié et l'amour,
exactement, ouais. Et j'adore cette chanson, et en plus elle est très inspirée par les Riot Girls, donc très cool.
Alors, Myrion Mal, vous sortez aujourd'hui un nouvel album. C'est votre premier album de fiction BD. Ça s'appelle oui. « C'est comme ça que je disparais ». Et c'est un livre qui parle d'une dépression, en fait, qui suit la trajectoire d'une jeune fille qui s'appelle Clara, qui est poétesse à Montréal, qui travaille à mi-temps dans une maison d'édition, et qui va commencer à s'enfoncer, en fait. Donc voilà, c'est un thème qui est assez rarement abordé. Et dans une interview que je lisais de vous sur Chic, une bonne interview, vous disiez « C'est à la fois un vide et un trop-plein, une dépression ». Alors, déjà, je voulais vous demander, dans le dessin, comment est-ce que vous avez abordé cette question ?
Moi, j'ai fait vraiment un travail sur mon... Ça fait longtemps, en fait, que je travaille sur mon dessin. C'est drôle parce que quand je fais de la BD didactique, on me dit souvent, voilà, je dessine mal parce que c'est un dessin un peu plus grotesque et tout ça, même si pour moi, il est très réfléchi. Mmh. Mais à côté, en illustration et aussi, je fais beaucoup de fanzina, j'ai vraiment travaillé sur mon dessin pour arriver à quelque chose qui me satisfasse, parce qu'avant, je trouvais que c'était trop figé, ce que je faisais.
Ouais.
Et là, j'avais vraiment en plus envie que les émotions soient très visibles, qu'on puisse se sentir et par le traitement du noir et blanc, et aussi par les visages, les mains, les corps.
La position des corps.
C'est ça.
Très précis. Ouais.
Et j'ai vraiment essayé en fait de pouvoir transmettre ces émotions-là et l'histoire en fait. J'ai voulu que le forme serve le fond. Et je me suis aussi beaucoup. Je suis revenue à mes premières amours du shoujo manga, qui est le manga pour jeunes filles fait par des femmes. Et parce que justement, je trouve qu'il y a une richesse des expressions, des visages. Hein, je me suis aussi nourrie de ça beaucoup parce que. Premièrement, c'est assez décrié, alors qu'en fait, c'est super bien. C'est juste que c'est pour les filles. Mais en plus, c'est ça, j'ai trouvé que c'était hyper utile pour moi de me rebaser sur ça pour faire ressortir vraiment, vraiment toutes ces choses. Et j'ai vraiment travaillé le noir et blanc pour l'ambiance et justement faire ressortir Clara ou au contraire l'étouffer un peu. Et voilà, donc j'ai essayé de traduire ça par le...
Pourquoi vous avez travaillé cette thématique-là, cette histoire-là, de cette dépression ?
Je pense que quand je fais des fictions, j'ai toujours envie de parler d'un sujet qui m'intéresse sur le moment. Et puis là, ça faisait un petit bout de temps, voilà, que ça me trottait dans la tête, que j'avais peut-être écrit des bouts. Puis j'ai eu une discussion avec une amie sur ce sujet, sur le fait que à quel point c'était dur en fait d'en parler, à quel point les gens se fermaient très vite.
Oui, c'est comme si tout d'un coup on était un peu un paria.
Exactement. Et comme si jamais on était soit ça va être des gens qui vont s'inquiéter à fond, mais en passant un peu à côté, et voilà, ou alors d'un seul coup, la question c'est est-ce que tu vas te tuer en fait, c'est ça. Et alors qu'il y a une nuance avec le goût de plus exister et le fait d'être suicidaire. Et on dirait qu'il ne faut surtout pas en parler, sauf si vraiment on est au bord de le faire. Et parce que les gens ne sont pas prêts à le recevoir. Et donc, il y avait cette envie de parler de ça.
Alors, bon, c'est compliqué d'expliquer une dépression. Ce n'est pas du tout ce que vous essayez de faire. On comprend quand même que c'est une accumulation de choses. C'est un trajet d'une personne qui a eu des traumatismes. Il y a eu des violences sexuelles. Il y a eu des ruptures. Il y a ces traumatismes qui font écho. Et à un moment, bon, voilà, cette jeune fille, elle craque comme ça. Mais on retrouve aussi dans cette histoire, je trouve, votre façon de regarder les choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi des perspectives genre. Il y a aussi on sent qu'il y a des inégalités, on sent qu'il y a des privilèges, on sent que la précarité va la toucher plus fort. Enfin, est-ce qu'il y a aussi une certaine façon, j'allais pas vous demander est-ce qu'il y a une perspective genrée de la dépression, mais est-ce qu'il y a une façon genrée d'accueillir la dépression, enfin de, vous voyez ce que je veux dire, de vivre.
Oui, bien sûr. Et puis, je pense que c'est ça. C'est intéressant de dire l'histoire d'une dépression parce que c'est vrai, il y a beaucoup de façons d'être dépressif. Et je veux pas du tout. C'est pas du tout un album qui explique la dépression. C'est ça. C'est pas. Mon personnage, c'est une jeune femme. Et puis, je pense que beaucoup de femmes connaissent la dépression aussi à cause de violences sexuelles. Et pour moi, effectivement, ça, c'est, du coup, c'est très genré parce que c'est très social, en fait, la façon... cette dépression, elle naît du trauma, mais aussi de comment il est traité, de comment... il y a quelque chose de très systémique. Et moi, c'était... pour moi, c'est très important, en fait, que les histoires soient ancrées, quand en tout cas, elles essayent d'être sociales, qu'elles soient ancrées dans, justement, le social et dans un contexte. Et moi, je voulais vraiment montrer que... je voulais pas vraiment montrer, mais j'avais envie de parler aussi de voilà, cette dépression, elle est induite par des... point de départ, c'est un trauma sexuel, et tous les effets, et le fait que oui, c'est, je parle surtout de ce sentiment-là de dépression, cette maladie, mais aussi pourquoi, et elle sort pas de nulle part, et il y a des choses comme le sentiment d'impuissance, comme l'injustice qui vont la nourrir, et effectivement, de l'autre côté, je voulais parler de la précarité, et qui nourrit aussi le sentiment d'impuissance, parce que c'est quelqu'un qui la blesse, et ensuite, c'est elle qui doit payer, mais en plus, c'est très dur, ça coûte très cher.
Oui, elle n'a pas les moyens, oui, c'est ça. D'entamer une thérapie.
Un psy, c'est $110 de l'heure, quoi. C'est quoi, c'est comme 80 euros. Et c'est très long quand on veut aller par les chemins gratuits. Il faut faire plein de démarches. On n'a pas l'énergie, forcément. Je voulais... pour moi, c'est aussi important de montrer ça parce que la santé mentale, il y a une représentation de la dépression qui est avec de la volonté, on peut s'en sortir. Et bon, ça, c'est vraiment très problématique pour plein de raisons. Mais en vrai, il n'y a pas que la volonté, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Et c'est... j'ai essayé d'être juste, en fait, je pense, dans ce que je montrais de cette dépression-là. De... voilà.
Ouais, et c'est un livre aussi, c'est un faisceau de relations. C'est aussi un livre sur l'amitié, sur la sororité. Elle est entourée beaucoup de figures féminines, plutôt. Bon, il y a un meilleur ami gay qui est à l'étranger, mais qui l'écoute, qui a aussi vécu une dépression. Mais voilà, c'est aussi tout ce faisceau-là de relations que vous montrez dans le livre, et qui est très subtil et qui est très réussi. Et puis, il y a autre chose qui m'a intéressée aussi, c'est la relation avec le monde d'aujourd'hui, quoi, avec le digital, parce qu'au fur et à mesure que finalement son monde se rétrécit, les seules fenêtres qui s'ouvrent, ça va être des chats, ça va être Instagram, ça va être des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose aussi que vous aviez envie de montrer, enfin de raconter.
Moi, j'ai un truc qui m'agace dans certaines œuvres, c'est qu'ils veulent utiliser les réseaux sociaux et tout, et qu'ils le font mal, genre dans le sens qu'ils vont pas... Je pense que justement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important dans nos vies, dans le sens, pas forcément, c'était pas forcément pour faire une critique des réseaux sociaux, je pense pas que je suis assez informée pour ça, mais simplement c'est quelque chose qui est omniprésent, et je trouve que vouloir faire comme s'il y en avait pas, ou alors ouais, c'est ça, j'avais vraiment envie de rendre ça d'une bonne façon, d'une façon réaliste de comment ça fonctionnait vraiment, et effectivement c'est un outil de communication maintenant, c'est surtout comme ça en fait que je pense que je le montre, parce que le livre il est construit sur Clara et ses relations autour d'elle et des relations qu'elle a ou qu'elle n'a pas, mais quand elle se referme chez elle, ça devient des relations... Elle en a quand même encore, mais ça devient plutôt par un contact numérique. Et donc, voilà, c'était plus dans cette optique-là et de vouloir utiliser, en fait, cette chose-là pour continuer, en fait, cette présentation des relations.
Oui, il y a autre chose que je voulais vous demander qui m'intéressait, c'est... Je lisais que vous disiez que vous aimeriez peut-être après faire une fiction en couleur, et puis plus légère aussi, parce que vous interrogiez un peu ce qu'on attend d'une production féministe, et en fait que c'était compliqué de faire des œuvres qui soient dans... à la fois féministe, mais dans la douceur et dans la légèreté. Je trouvais que c'était intéressant comme idée.
Ah, ben oui, c'est parce que... c'est ça, j'ai couvert un festival de cinéma, et puis j'ai vu plein de... Et donc il y avait un truc femme réalisatrice, et j'ai trouvé que c'était des super films, vraiment hyper bien, mais il y en avait beaucoup en fait qui parlaient de violences sexuelles notamment, et j'ai trouvé ça, à la fin j'avais un sentiment d'étouffer, et c'est drôle parce que je me suis dit, oh j'aimerais ça, des choses qui... j'ai envie de voir des choses féministes et qui sont pas que lourde. Et après, j'essaye vraiment pas de dire que je pense qu'il faut qu'il y ait moins de choses qui parlent de sujets plus difficiles. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses féministes qui sont plus légères, mais simplement dans la façon dont c'est mis en avant, dans la façon dont c'est choisi, on va souvent prioriser ça pour donner une image féministe, justement. Alors qu'il y a, par exemple, il y a une réalisatrice québécoise, Sophie Bédard-Marcotte, qui fait des super films qui sont un peu tristes aussi, mais qui sont légers. Il y a Anna Biller avec The Love Witch. Je trouve que c'est un film qui est super féministe et super bien, mais clairement, voilà, il y a plein de choses qui existent déjà. Mais c'est vrai que ce qu'on va vouloir attendre... on va vouloir, en fait, que si jamais t'es féministe, il faut que tu portes tout le temps la cause et qu'il n'y a pas de répit, en fait, c'est ça. Et moi, je dis ça et j'ai fait un album hyper triste et déprimant, quoi. Donc, je me... C'est juste que... Et je pense toujours que c'est important d'en faire. Et je pense aussi que on peut parler de ça, ça peut faire partie d'une œuvre plus douce aussi, et qu'on n'est pas obligé de les occulter. En fait, je pense que c'est très mauvais d'occulter ça, mais justement, c'est peut-être ça aussi le défi que j'aimerais faire. C'est quelque chose qui ne fait pas semblant que ça n'existe pas, mais qui soit peut-être un peu moins triste que ce livre-là. Un peu moins lourd peut-être, parce que j'aime beaucoup la tristesse, donc c'est très probable que je vais encore faire une histoire super triste.
Bon, alors un peu de... Je sais pas si de tristesse, mais un peu de mélancolie. Lana Del Rey sur Nova.
I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not, baby, I'm not, no, I'm not, that I'm not. I've been tearing around in my fucking nightgown, 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on my walls, 'cause the ink in my pen don't work in my notepad. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not, but at best I can say I'm not sad. 'Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. I had 15-year dances, church basement romances, yeah, I've got spilling my guts with the Bowery bums is the only love I've ever known, except for the stage which I also call home when I'm not serving up God in a burnt coffee pot for the triad. Hello, it's the most famous woman you know on the iPad.
Nova.
Dans le genre.
Dans le genre.
Dans le genre.
Voilà, c'était Lana Del Rey, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have. Voilà, j'y suis arrivée. On est toujours avec Myrion Malle, l'autrice de BD. Myrion Malle, quel rapport vous entretenez avec votre physique?
Pas un très bon rapport du tout. J'ai vraiment des gros problèmes avec ça, et puis j'essaye de... C'est un travail que je fais constamment justement pour m'en libérer, mais je suis très très consciente de ça, et je sais que c'est terrible parce que je suis très féministe, très engagée, je vais jamais juger une femme sur son physique, et pourtant moi je me juge beaucoup, et il y a des jours où je me trouve tellement laide que je ne veux pas sortir de chez moi, et c'est très difficile, et voilà, c'est très intime de parler de ça, mais j'ai pas un très bon rapport avec mon physique et j'aimerais bien qu'il s'améliore. J'aimerais bien m'en fiche, en fait.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire, vous ?
Je pense mon humour, beaucoup. Je pense que je suis très drôle, sans vouloir me vanter, mais je pense que je suis quand même drôle. Et je suis aussi très sociable, genre, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais parler, je vais rigoler, je vais... danser ou quoi, pour juste parce que pour avoir une présence. Mais je suis très mauvaise, je suis vraiment très mauvaise par contre à flirter. C'est juste ça, je me mets loin et je suis comme regardez, j'existe, mais sinon je suis terriblement mauvaise.
Qu'est-ce qui vous plaît chez un homme ou une femme, voilà, enfin chez une personne qui vous plaît?
Je pense la gentillesse, beaucoup. C'était pas toujours le cas et je pense que en grandissant je me rends compte que c'est ça qui est important et que c'est pas nul d'être gentil, donc la gentillesse et la curiosité, et puis comment dire, le fait que de pas aller chercher l'intérêt de l'autre personne tout le temps et de que ça soit partagé, peut-être quelque chose et puis aussi de ouais dans, je sais pas, il y a vraiment l'humour, bien sûr, que quelqu'un soit drôle, que quelqu'un soit intéressant, c'est sûr que c'est important, mais je dirais la gentillesse et le fait de pas se sentir toujours à devoir faire un numéro de cirque et à devoir entretenir l'autre personne et toi. Voilà.
Est-ce que vous auriez aimé être un homme?
Non. J'aurais aimé ne pas vivre dans une société sexiste, mais je pense qu'avec... Je sais pas si j'ai déjà voulu... Je sais que j'ai déjà ressenti ces injustices et je ressens toujours... J'aimerais ça marcher dans la rue, tranquillement. Et j'aimerais ça ne pas me faire aborder. J'aimerais ça être prise au sérieux. Et beaucoup d'autres choses. J'aimerais ça que les autres femmes vivent aussi une liberté égale à celle des hommes sur tous ces points-là. Mais je pense que, surtout avec la découverte de la sororité... je me sens contente malgré tout. J'aimerais d'appartenir à ce groupe.
Et est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente de celle que vous êtes?
Je pense que oui, j'aurais probablement... Mais en même temps, je suis quand même correcte avec qui je suis. Je pense qu'il y a toujours des moments où on se déteste et où on se dit... J'aurais pu être plus intéressante, j'aurais pu être plus intelligente. Je suis très forte pour m'excuser tout le temps et toujours me trouver hyper nulle. Peut-être que j'aurais... Je pense que souvent, je rencontre quelqu'un et je me dis « Mon Dieu, si seulement j'étais cette personne, si seulement j'étais aussi cool. » Mais au final, ça va, c'est pas si pire.
Bon, ben, ça sera notre mot de la fin. Je vous rappelle le titre de la BD de Myrion Mal. C'est comme ça que je disparais, c'est chez La Ville Brûle. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés par les romans graphiques, je vous signale aussi la sortie de Sur la route de l'Ouest de Tilly Walden. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Il y avait sa première qui s'appelait Dans un rayon de soleil, qui était une BD SF un peu non-binaire, qui était sortie il y a quelques années. C'est une jeune autrice qui est originaire du Texas, qui est installée aujourd'hui à Los Angeles. Donc voilà, Sur la route de l'Ouest. Je tenais à vous signaler cette sortie aussi. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, soyez unique en votre genre. Bonne soirée sur Nova.
Dans le genre.
Dans le genre.
Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.